Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, méditons ensemble sur le verset 261 de la sainte sourate Al-Baqarah. Notre frère Bouroumand vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset prône la largesse qui est bien récompensée par Dieu.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حب أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم.
Il est de ceux qui font largesse de leurs biens dans le sentier de Dieu, comme d'un grain d'où naissent sept épis à cent grains l'épi, car Dieu multiplie en faveur de qui il veut. Dieu est immense, il sait.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Grâce au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Très chers amis auditeurs, merci d'être avec nous en ce jeudi 3 juin 2021. J'ai le grand plaisir de vous présenter dans quelques instants le journal d'information suivi d'un commentaire politique. Nous vous proposerons ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute. Restez avec nous. Le navire de la marine iranienne Kharg a coulé en mer d'Oman le mercredi 2 juin. L'armée yéménite a pris le contrôle de 150 km² de Jizan après une opération de grande envergure sur l'axe Al-Khuba-Wadi Jarrah. Plus de 200 soldats saoudiens et soudanais ont été tués, blessés ou capturés. Et en France, un accident lié à une mauvaise manipulation d'armes de poing survenue ce 2 juin dans un camp d'entraînement non loin de Carcassonne a provoqué la mort d'un militaire qui, selon des informations préliminaires, aurait été tué par un autre soldat. Et l'Organisation des Nations Unies va soutenir les autorités de la Guinée-Bissau pour consolider les résultats encourageants obtenus aux élections présidentielles. C'était les principaux titres. En voici le journal. Le navire de la marine iranienne Kharg a coulé en mer d'Oman le mercredi 2 juin. La marine iranienne a annoncé le naufrage d'un navire auxiliaire de plus de 200 mètres long en mer d'Oman après des heures de lutte contre un incendie qui s'était déclaré à bord le 1er juin. L'équipage du bâtiment, le Kharg, a pu être évacué avant que le navire ne sombre au large du port de Jask dans le sud de l'Iran, indique un communiqué de la marine. Les vidéos diffusées montrent une épaisse colonne de fumée s'élevant au large au-dessus d'une mer turquoise, indiquant qu'il s'agissait du Kharg en train de brûler. Un effort de 20 heures pour éteindre l'incendie par l'équipe de contrôle des dommages du navire qui a été rejointe par des équipes de lutte contre l'incendie ainsi que des forces militaires et civiles d'autres navires à proximité n'a pas réussi à sauver Kharg selon un porte-parole de la marine. Le porte-parole a noté que tous les membres d'équipage et les stagiaires à bord du navire ont été évacués. Seulement 20 des 400 personnes à bord ont été légèrement blessées. Les rapports suggèrent que l'incendie a commencé vers 11h, heure locale, mardi, avec une épaisse fumée noire s'élevant du navire. L'incendie, qui, selon le responsable de la marine, a commencé dans la salle des machines du navire, s'est progressivement propagé de manière incontrôlable et a englouti le navire, le faisant finalement couler. Le navire Kharg était le deuxième plus grand navire logistique de la région après Makran. Il a été nommé d'après l'île de Kharg dans le golfe Persique. Le navire qui était en service depuis 40 ans était utilisé à la fois à des fins logistiques et de formation. Le porte-parole de la marine iranienne a déclaré que la cause de l'incendie faisait toujours l'objet d'une enquête et qu'une déclaration sera bientôt faite à ce sujet. Le cinquième cycle de pourparlers entre l'Iran et les autres signataires de l'accord nucléaire se termine à Vienne. L'objectif est de ramener les États-Unis dans l'accord et d'assurer la pleine mise en œuvre des engagements nucléaires de l'Iran. Le coordinateur de l'Union européenne, Eric Mora, a déclaré que les points de friction sont moins nombreux qu'il y a une semaine. Le délégué principal iranien, le vice-ministre des Affaires étrangères Abbas Araghchi, a déclaré que bien que les parties aient fait de bons progrès, certaines questions clés doivent encore être résolu. L'Iran a exigé la suppression de toutes les sanctions imposées, réimposées ou réétiquetées sous l'ancienne administration américaine, affirmant qu'il ne reviendra à une pleine conformité qu'après la vérification de la suppression des sanctions. La commission mixte se réunira à nouveau dans une semaine et bien que le coordinateur de l'Union européenne ait déclaré qu'il était absolument sûr que le prochain cycle de pourparlers serait le dernier, le responsable iranien a opté pour une position plus prudente, affirmant que rien n'est prévisible dans des négociations aussi difficiles. L'armée yéménite a pris le contrôle de 150 km² de Jizan, de l'Arabie saoudite, après une opération de grande envergure sur l'axe Al-Huba-Wadi-Jara. Plus de 200 soldats saoudiens et soudanais ont été tués, blessés ou capturés. Les forces yéménites ont également réussi à nettoyer plus de 30 bases de la coalition saoudienne. Les opérations qui couvraient une superficie de plus de 2500 km² illustrent encore une fois les performances des forces yéménites face à un ennemi qui cherche à renforcer le gouvernement démissionnaire de Mansour Hadi et à imposer un cessez-le-feu inconditionnel au gouvernement de Sanaa. Pour camoufler une défaite scandaleuse, les médias à la solde de la coalition d'agression saoudienne ont prétendu que les vidéos publiées sur l'opération de Jizan n'étaient pas authentiques. Le quartier général de la propagande de guerre yéménite a diffusé de nouvelles vidéos de l'opération qui comprenaient des images des forces saoudiennes, des mercenaires, de leurs bases et de leurs équipements. Le ministre yéménite de l'Information, Saifullah Shami, s'est rendu également le mercredi 2 juin sur les lignes de front et a confirmé la victoire sur l'ennemi saoudien lors de cette opération à grande échelle à Jizan. Beaucoup de villes frontalières de l'Arabie saoudite se sont transformées en des casernes par crainte des opérations de l'armée et des comités populaires du Yémen. Des photos et des enregistrements vidéo diffusés montrent de lourds dégâts infligés et les armes abandonnées par les militaires saoudiens qui ont pris la fuite, les équipements détruits et les corps des soldats abattus. Les forces démocratiques syriennes, FDS, ont perdu le contrôle de tous les villages autour de Manbij, à la suite de manifestations de centaines d'habitants de la banlieue de cette ville, manifestations qui se sont poursuivies malgré l'imposition de couvre-feu par les FDS. Lors des manifestations, 6 personnes ont été tuées et 25 autres blessées sous des balles tirées par les FDS. Les manifestations ont éclaté le 31 mai dans la banlieue de Manbij. Au début, il n'y avait pas de violence. Des dizaines d'habitants ont bloqué la route internationale M4 avec des pneus en feu près du village de Karsan. Plus tard, les protestations se sont étendues à la ville. Avec l'expulsion des forces démocratiques syriennes de tous les villages et villes autour de Manbij, ces régions sont désormais tombées entre les mains des forces nomades arabes. Les FDS ont déserté pour rejoindre les tribus arabes de la région. Par ailleurs, un certain nombre de civils ont été blessés dans l'explosion d'un engin explosif dans la ville de Jarablus, dans la banlieue nord d'Alep. Des sources locales de la ville, où se déploient des groupes terroristes alliés au régime turc, ont indiqué qu'un engin explosif planté dans une voiture avait explosé ce mercredi 2 juin dans la ville de Jarablus, dans la banlieue nord d'Alep, ce qui a fait un certain nombre de civils blessés qui se trouvaient sur place. Les sources syriennes ont ajouté que l'explosion avait causé également des dégâts matériels dans les maisons et les infrastructures de la ville. En France, un accident lié à une mauvaise manipulation d'armes de poing survenue le mercredi 2 juin dans un camp d'entraînement non loin de Carcassonne a provoqué la mort d'un militaire qui, selon des informations préliminaires, aurait été tué par un autre soldat. Un militaire de 20 ans a trouvé la mort ce mercredi 2 juin dans un camp d'entraînement à Ville-Maury, non loin de Carcassonne, relate l'Indépendant qui précise que l'hypothèse d'un accident a été confirmée par l'armée de terre. La victime a été touchée dans le bateau par une balle qui est partie d'un pistolet 9 mm, selon une source du journal. Les secours arrivés sur place ont fait le nécessaire pour le ranimer, mais n'ont pu que constater son décès. Le porte-parole de l'armée de terre a confirmé que les pistes de l'attentat ou de l'homicide volontaire étaient écartées. Une enquête devra déterminer les circonstances du drame. Des accidents du genre ne sont malheureusement pas à exclure et arrivent régulièrement. Dans ce contexte, plusieurs députés avaient présenté le 1er décembre 2020 à l'Assemblée nationale une proposition de loi visant à étendre le statut et les conditions d'attribution de la mention « mort pour le service de la nation » aux militaires dont le décès est survenu accidentellement sur le territoire national, sur terre, dans les airs ou sur la mer lors d'un entraînement, d'un exercice de préparation d'opération ou en mission intérieure par le fait des matériels, armes, systèmes d'armes et situations extrêmes. Le Conseil de la Fédération russe, chambre haute du Parlement, a adopté mercredi un projet de loi afin de sortir du traité de contrôle des armements ciel ouvert. Cette décision a été prise en réponse au retrait des États-Unis de ce pacte en novembre 2020, a indiqué dans un communiqué le président du Comité des affaires internationales de la Chambre, Grigory Karasin. Il a critiqué la démarche des États-Unis car celle-ci déstabilise considérablement l'équilibre des intérêts et sape le rôle clé du traité dans le renforcement de la confiance et de la transparence. La Russie avait présenté des propositions concrètes visant à préserver le traité, mais les États-Unis n'y ont pas répondu, selon M. Karasin. La Douma russe, chambre basse du Parlement, a donné le feu vert au projet de loi le mois dernier. Le président russe Vladimir Poutine devrait bientôt promulguer cette loi de retrait. Le traité multilatéral ciel ouvert, qui est entré en vigueur en 2002, autorise ces États parties à mener des zones de reconnaissance non armées avec un préavis réduit au-dessus des territoires des autres États parties avec l'objectif de collecter des données sur les forces et activités militaires. Après que Washington a annoncé son retrait l'année dernière, le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré en janvier que la Russie avait à son tour entamé les procédures juridiques au niveau national en vue d'un retrait officiel du traité. L'Organisation des Nations Unies va soutenir les autorités de la Guinée-Bissau pour consolider les résultats encourageants obtenus aux élections présidentielles, a déclaré mercredi le nouveau représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Mahamat Saleh Anedif, à l'issue d'une rencontre avec le président bissau-guinéen, Maro Sissoko en Balou. M. Anedif a dit venir entendre et connaître les autorités bissau-guinéennes et les préoccupations du pays qui vient de sortir d'un processus électoral dont les résultats sont très encourageants, selon lui, et méritent le soutien de l'ONU. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a nommé en mars cette année le Tchadien Mahamat Saleh Anedif en tant que son nouveau représentant spécial pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. La Tunisie a conclu deux accords de dons d'une valeur globale de 1,867 millions de dinars avec la Banque africaine de développement BAD, a été appris mercredi auprès du ministère tunisien de l'économie, des finances et de l'appui à l'investissement. Les accords des deux dons ont été signés à Tunis. Entre le ministre tunisien de l'économie, des finances et de l'appui à l'investissement, Ali Kouli, et le directeur général du bureau régional de la BAD pour l'Afrique du Nord, Mohamed El Azizi. D'une valeur d'un montant de 480 000 de dinars, le premier accord de don s'orientera vers le financement de l'élaboration d'une étude sur un projet d'aménagement des zones montagneuses du nord-ouest de la Tunisie. Quant au second, d'un montant d'1,387 millions de dinars servira la mise en application de certains projets de partenariat entre les deux secteurs publics et privés en Tunisie. Messieurs Kouli et Azizi ont saisi l'occasion pour exposer les résultats d'une nouvelle stratégie lancée par la BAD portant sur le développement du secteur pharmaceutique en Afrique via l'appui des capacités techniques, logistiques et humaines des entreprises opérant dans ce domaine, en plus de l'établissement de partenariats régionaux afin d'impulser la coopération en la matière. Les étapes pratiques pour manifester les résultats de cette stratégie seront débattues lors d'un webinaire prévu bientôt et sera co-organisé par le ministère tunisien de l'économie, des finances et de l'appui à l'investissement et la Banque africaine de développement. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Le navire logistique Kharg coule en mer d'Oman. Incident ou attaque? Le deuxième plus grand navire logistique de soutien de la marine iranienne, Kharg, a coulé ce mercredi 2 juin à la suite d'un vaste incendie qui s'est déclaré au niveau des dispositifs de commande alors qu'il se trouvait au large du port iranien de Jask. Le navire porte-hélicoptère avec à son bord quelques 400 membres d'équipage et de stagiaires a pris feu et plus de 20 heures de lutte acharnée contre l'incendie n'en a pas stoppé la propagation et le porte-hélicoptère a coulé ce mercredi dans le golfe d'Oman, non loin du détroit stratégique d'Hormoz. Incident ou attaque? Kharg a passé en 2017 une première mission dans le golfe d'Aden au bout de 5 ans de réparation et de remise en état. Sa première mission aurait été toutefois celle menée en 2009 quand il avait accompagné le destroyer iranien Sahand dans sa mission à l'attaquer sur la côte ouest syrienne. De retour de cette mission, il avait traversé le canal de Suez en défiant la marine israélienne et ses avertissements. L'incendie a-t-il été un incident? L'enquête se poursuit, mais une chose est sûre. Tout indice allant dans le sens d'un acte volontaire comme cette piste indiquée par Aviapro, proche de la défense russe, risque de coûter trop cher à l'assaillant. Aviapro évoque une attaque au drone qui aurait déclenché une explosion et un incendie, relançant la spéculation autour d'une implication israélienne. Début avril, effectivement, un navire logistique iranien du nom de Saviz a été pris pour cible d'une attaque au missile de croisière alors qu'il se trouvait en mer Rouge. La riposte iranienne n'a pas tardé quand un navire logistique israélien battant le pavillon de Barama a été visé sur son trajet reliant le port koweïtien d'Al-Ahmadi au Fujairah, hub pétrolier commercial des Émirats. Le naufrage de Kharg fait suite en effet à 11 jours de batailles intenses en Méditerranée, marquées par une campagne aérienne sauvage israélienne contre Gaza, à laquelle celle-ci a répondu par une inattendue campagne de bombardements balistiques qui s'est très rapidement propagée à la mer et au site offshore gazier d'Israël. Dès le 11 mai, le champ gazier Tamar, tenu par l'américain Noble Energy, l'américain Chevron et les Émirats fraîchement arrivés à la suite des accords d'Abraham a été fermé. Les pétroliers ayant été forcés à quitter les lieux. Haïfa et son tour de forage et d'exploitation gazière n'a pas été non plus épargné. Idem pour l'oléoduc Eilat Ashkelon ou encore les réservoirs de ce port gazier du sud d'Israël qui ont passé sous les coups des missiles tactiques ou des drones palestiniens. Même une corvette Sa'ar, dotée des systèmes de Dessa Baraka, qui faisait partie d'une flotte ultra-armée et chargée de protéger Tamar, a été visée rien que pour prouver que cette voie de transit gazière n'est pas la bonne. L'attaque contre l'un des plus grands navires logistiques iraniens, s'il s'avère vrai, restera-t-il impuni? Peu probable. Surtout qu'à Gaza, le QG de commandement de l'opération a non seulement compté des commandants du Hezbollah, mais encore ceux d'Asaral. Mais voilà que le pari est hautement risqué. Pendant la bataille d'avril, la résistance libanaise n'a cessé d'être en état d'alerte. Plusieurs salves de roquettes et missiles ont été tirées sur Israël depuis les frontières du nord de la Palestine occupée. Même un drone a été intercepté et détruit et le régime sioniste n'a pas su identifier son lieu de décollage, la Syrie ou l'Irak. Mais la chose la moins médiatisée aurait été le contact permanent qui n'a cessé d'exister entre Asarallah et Gaza. Ce mercredi 2 juin, les Émirats font savoir faire parvenir leur première cargaison du pétrole à Eilat pour un déchargement en direction de l'Europe et ce via l'oléoduc Eilat Ashkelon. Ce serait peut-être aller trop vite à la besogne si Abu Dhabi croit ce chemin de transit définitivement rétabli.
Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition du débat en ce mercredi 2 juin 2021. Décidément, la coalition saoudienne se trouve au pied du mur au Yémen. La résistance yéménite continue de gagner du terrain sur différents fronts face aux agresseurs saoudiens. La semaine dernière, les forces yéménites ont porté un coup fatal à la coalition saoudienne à Jizan, en amputant le royaume d'une partie de son territoire. Là, il s'agit d'un acquis militaire et sécuritaire important. Et bien sûr, cet acquis est porteur de nombreux messages. Entre autres, la résistance yéménite est déterminée en effet à défendre son pays, son peuple, en dépit de la poursuite de l'agression saoudienne et du siège imposé au Yémen par cette coalition. Le deuxième message, c'est en effet l'équation attaque-contre-attaque. À maintes reprises, les dirigeants yéménites ont souligné que la résistance et les opérations de représailles se poursuivront tant que le royaume wahhabite poursuivra son agression contre le Yémen. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition du débat, nous allons nous pencher sur cette avancée importante des forces yéménites face aux agresseurs saoudiens, non seulement à l'intérieur du Yémen, mais aussi sur le territoire saoudien. On va y rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission.
200 soldats saoudiens et mercenaires soudanais, dont 80 officiers tués, 150 km² des territoires du sud de l'Arabie, dans le port stratégique de Jizan annexé, et le ministre de la Défense saoudien Ben Salman, qui s'en fiche et continue à passer ses vacances aux Maldives. C'est en ces termes que l'opinion saoudienne commente la tonitruante offensive éclair d'Ansarallah contre Jizan à peine 3 jours après l'accalmie du front Israël-Gaza. Mais il est passé où notre prince ? N'a-t-il pas honte de voir les images de ces centaines de soldats saoudiens en débandade qui ne savent où se cacher, pris pour cible des super snipers d'Ansarallah qui, au lieu de les chasser à coups de fusil de précision, le font à l'aide des lance-roquettes? Et jusqu'où ira cette humiliation? Et dire que le porte-parole de la coalition apparaît 3 fois par jour à l'écran pour prétendre avoir intercepté les drones d'Ansarallah. De quoi parlent les internautes saoudiens? Cette semaine, les forces de la résistance yéménite ont porté un coup fatal aux agresseurs saoudiens à Jizan en amputant le royaume d'une partie de son territoire. C'est de loin la première fois que la résistance yéménite s'empare de plusieurs localités sensibles en territoire saoudien dont la population les accueille à bras ouverts. Est-ce un début de démembrement? L'opération à grande échelle des forces de résistance yéménite contre les agresseurs saoudiens a été menée sur l'axe Al-Quba-Wadi Jarrah et à partir de 3 des routes principales. Dans le cadre de cette opération, les positions et les bases de l'armée saoudienne à Tabab al-Faqida, Al-Tabah al-Baïda, Al-Kambura, Al-Amoud, Tuvilak et Kaem Sayab ont été prises. De même, les forces yéménites ont pris le contrôle de dizaines de centres et de positions appartenant aux mercenaires pro-Riyad, infligeant de lourds dégâts matériels aux agresseurs. Et elle montre une opération surprise avec en toile de fond des désertions en masse, des débandades des centaines de militaires saoudiens qui abandonnent armes et munitions, prennent la fuite en direction des profondeurs de l'Arabie saoudite. Puis les images mettent en scène la destruction de l'équipement militaire de l'armée saoudienne, les corps de militaires gisant par terre. Ce qui devrait faire bien oublier aux Saoudiens, tout comme aux Émiratis, toute illusion d'un démembrement du Yémen. Le retour de 150 km² des territoires occupés par Riyad de Jizan est pour le reste une démarche destinée à imposer une nouvelle démarcation frontalière. Les glaces sonnent pour les agresseurs.
Nous sommes en ligne avec Mme Aïssa Armidani, analyste franco-syrienne des questions internationales. Mme Armidani, bonjour et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Mme Armidani, l'actualité régionale, alors c'est victoire de la résistance yéménite face aux agresseurs saoudiens, non seulement sur le territoire yéménite, mais aussi à l'intérieur du territoire saoudien. Quel premier regard portez-vous sur ces percées considérables une dizaine de jours après la victoire de la résistance palestinienne face à l'entité d'occupation israélienne?
En fait, je crois que c'est le front de résistance remporte de grandes victoires en ce moment. Ça a été le cas en Palestine. Justement, les Yéménites avaient proposé aux Palestiniens qu'ils seraient prêts à participer aussi et à envoyer des missiles contre les agresseurs israéliens. Aujourd'hui, donc, en fait, au Yémen et vis-à-vis des territoires en Arabie Saoudite, je tiens à dire quand même que ce sont des territoires qui ont déjà été occupés par les Saoudiens de manière complètement injuste, et donc c'est un juste retour des choses que les Yéménites reprennent leur territoire, alors que les Saoudiens continuent à agresser le peuple yéménite. Je voudrais aussi faire remarquer que les Saoudiens, ils ont accentué les agressions par rapport à Mehreb pour éviter que la résistance yéménite ne la reprenne en main. Mais en réalité, ils ont attaqué du côté de Jizan et de Afir. Je voudrais souligner aussi la loyauté des Yéménites dans cette guerre face à l'agression saoudienne, parce qu'à chaque fois ils disent, nous on attaque, à chaque fois que vous nous attaquez, on répond, mais en fait, tant que vous continuez à, on arrêtera si vous arrêtez l'agression, mais tant que vous continuez l'agression, nous continuerons. Mais ils préviennent aussi avant et ils attaquent, ce qui est à la fois une certaine loyauté, je dirais, et un respect des vies humaines dans la bataille, mais aussi un autre côté, c'est aussi un respect de la parole. Et on voit aussi que les Saoudiens continuent par signe et signe dans leur agression et dans leur nonchalance aussi des vies des civils, parce qu'ils n'arrêtent pas de bombarder comme des malades, en fait, depuis 2015 jusqu'à présent. Ils font des propositions de cessez-le-feu qu'ils ne respectent jamais. Il y a un blocus total contre la population et contre le Yémen, en fait, au niveau des aéroports et des ports, etc., qui empêche le peuple yéménite d'accéder à toute denrée utile et à toute chose utile et nécessaire pour la vie, d'abord, sur le plan sanitaire, sur le plan alimentaire, sur le plan des aides humanitaires, sachant que aussi ils les empêchent d'utiliser leur propre pétrole. C'est en fait vraiment un blocus complètement criminel. D'ailleurs, les correspondants et les consultants de l'ONU disent que c'est la crise humanitaire la plus grave, surtout à l'ombre du corona qui ravage la planète, hein, et que le peuple yéménite ne pourra même pas avoir accès aux médicaments, aux vaccins, aux
médicaments,
etc. Donc les Saoudiens continuent cette agression avec une volonté, je dirais, d'extermination de ça, du peuple yéménite.
Nous sommes également en ligne, je vous le disais en début de cette émission, avec M. Habib Tava, analyste politique. M. Tava, dans quelle mesure la résistance yéménite a profondément modifié les règles du jeu au Yémen?
Précisément, les yéménites ont réussi à retourner le jeu complètement des Saoudiens. d'agresser, ils sont devenus offensifs, ils ont repris certaines parties du terrain et aujourd'hui, même s'ils sont victimes de bombardements et de crimes finalement parce que on les empêche de recevoir de la nourriture, des soins, etc., néanmoins, en dépit de leur faiblesse, leur force morale fait que, et leurs compétences aussi, font qu'aujourd'hui, ils réussissent à l'emporter sur le terrain sur de nombreux fronts. On parle souvent de... On a parlé longtemps, il y a quelques semaines, de la bataille autour de Mareb. C'est un fait que les Yéménites ont beaucoup avancé, que les Saoudiens ont mis le paquet. Il y a des militaires britanniques et américains qui avaient débarqué sur la mer d'Oman et qui étaient remontés pour essayer d'arrêter l'offensive yéménite. Les Yéménites ont avancé et finiront par occuper Mareb. Et aujourd'hui, ils font cette attaque qui est une forme de contre-attaque du côté de Jizan pour bien montrer aux Saoudiens que ce n'est pas eux les maîtres du terrain, que ceux qui sont les maîtres du terrain, c'est les enfants du pays. Parce que finalement, qu'on le veuille ou non, des deux côtés de la frontière, les gens du Asir, c'est-à-dire du sud de l'Arabie, comme les gens du Yémen, sont en fait des frères. Ça a longtemps été le même pays, tout ça. Jusqu'en 1923, où les gens d'Abdelaziz et Moussaoud ont commencé à gratter le territoire. Vous avez relevé tout à l'heure que les troupes yéménites étaient accueillies avec joie par les villageois. Pourquoi ? Parce que ce sont des gens qui, depuis un siècle bientôt, sont sous le pouvoir saoudien et n'en peuvent mais. Les Assyriens sont la part congrue dans l'Assyrie, c'est-à-dire c'est les habitants qui existent au nord du Yémen, sont la part congrue dans la fortune qui est tombée sur les Saoudiens avec le pétrole. Ils sont beaucoup moins nantis que le reste de l'Arabie saoudite. Et sont malheureusement pour eux parfois méprisés par le reste des Saoudiens. Donc on peut imaginer qu'à terme, pas dans l'immédiat, il y a une volonté pour les Yéménites de récupérer ces territoires qui ont été annexés dans les années 20 à la faveur de la faiblesse de l'imam Yahya qui était à l'époque le souverain du Yémen. Et donc, il y a un retournement des choses. Quand on allume qui allume le feu sur les autres, on peut être pris en retour. Il y a un proverbe en arabe qui dit que celui qui a une maison de verre, ne doit pas jeter des pierres sur les autres. Or, c'est exactement ce qu'ont fait les Saoudiens. Ils ont voulu attaquer les Yéménites alors qu'ils sont eux-mêmes fragiles chez eux. Mais aujourd'hui, cette entrée dans la région de Jizan est un juste retour des choses et peut prendre une ampleur que les Saoudiens n'imaginent pas. Il pourrait y avoir un soulèvement de toute cette région qui, finalement, est une région culturellement yéménite. Et ça, c'est une chose qui est tout à fait inattendu pour les observateurs étrangers qui regardent la politique à un ou deux ans d'intervalle. Tendanciellement, cette région est culturellement yéménite, ils sont souvent zaïdites, comme tous les yéménites du Nord, et donc il y a de fortes possibilités que cette déstabilisation de l'Arabie saoudite soit perçue par le pouvoir saoudien, s'ils sont un peu éveillés, mais on ne sait pas trop, comme un danger grave, et les conduisent à faire la paix avec le Yémen. Le feront-ils ? Nous verrons.
Merci infiniment pour ces précisions. Restez avec nous, Monsieur Tava. Madame Midani, alors, concernant les évolutions régionales, quel a été l'impact, en effet, de ces victoires de la résistance yéménite sur le cours des événements dans la région, notamment l'implication de l'entité israélienne dans le détroit stratégique de Bab el-Mandeb?
En fait, les implications, ça montre bien quand même que ces pays qui se sont aussi dépêchés pour faire des alliances avec Israël, comme les Émirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite, Bahreïn, et qui essayent de montrent aujourd'hui que c'est complètement contre la volonté de tous les peuples de la région d'un côté. De l'autre côté, ils ont quand même servi à Israël la possibilité de s'étaler dans l'île de Socotra, dans le détroit de Bab el-Mandeb aussi, etc. Mais en fait, la défaite cuisante d'Israël dans ces 13 jours d'offensive, palestinienne, pour Al-Quds et pour Gaza montre quand même qu'il y a une nouvelle ère qui commence pour Israël, que c'est le début de la fin, le début de l'écroulement, malgré ce que essayent ces pouvoirs, en fait, il y a un écroulement de l'intérieur déjà en Israël, mais il y a aussi au niveau des pays qui ont voulu, qui est des pays dits arabes, ou des régimes, je préfère dire les régimes, qui ont voulu soutenir Israël, mais là, ils essayent de faire au maximum, mais de toute façon, ils couleront tous ensemble. Étant donné que l'ensemble des forces populaires et des forces de l'axe de la résistance sont bien partis pour faire justice, je dirais, en fait, au peuple palestinien d'un côté et puis contre toutes les agressions de l'autre côté, des agressions israéliennes. Donc ça, c'est un grand changement quand même du paysage politique et géopolitique dans la région. Je voudrais quand même faire remarquer que les habitants d'Al-Lod commencent à plier bagages et à partir. Donc Israël va être vidé de ses colons qui ne se sentent plus en sécurité et qui n'ont plus main basse ou qui n'auront plus la main basse sur le peuple palestinien pour piller ses ressources et surtout pour commettre les exactions qu'ils veulent quand ils veulent. Donc en fait, ce changement.
On a été coupé malheureusement avec Madame Idani. Madame Idani, est-ce que vous nous entendez? Donc on va continuer avec Monsieur Tava. Monsieur Tava, vous êtes avec nous? Allô? Monsieur Tava, est-ce que vous nous entendez? Nous avons visiblement un souci de liaison. Madame Idani, est-ce que vous êtes avec nous? Donc, en attendant que, en effet, notre contact soit rétabli, notre liaison avec nos intervenants. Comme ils ont bien souligné à juste titre, là, avec les récents exploits de la résistance yéménite, on assiste à un changement de visage politique et géopolitique, non seulement au Yémen, non seulement dans les affrontements entre la résistance yéménite et la coalition d'agression saoudienne, mais aussi au niveau régional, d'autant plus que, en effet, ces victoires qui s'accumulent pour la résistance yéménite interviennent une dizaine de jours après, celle d'une autre composante de l'axe de la résistance, à savoir la résistance palestinienne face à l'entité d'occupation israélienne. Donc là, les règles du jeu ont profondément en effet changé. Il s'agit là, comme M. Tavar vient de souligner tout à l'heure, ce sont les Yéménites au Yémen, bien sûr, la résistance yéménite qui s'est rendue maître du jeu face à la coalition saoudienne qui dispose désormais en effet d'importants équipements. Non seulement militaire, mais aussi de renseignement pour contrer l'agression saoudienne, comme d'ailleurs la résistance palestinienne qui a révélé au grand jour, au cours des dernières semaines, sa capacité à défendre, à contrer en effet les agressions de l'entité sioniste. Monsieur Tava, est-ce que vous êtes avec nous? Le problème persiste toujours. Cette victoire, ces percées de la résistance yéménite. Désormais, bien sûr, Il s'agit de l'équation, comme je le disais en début de cette émission, attaque contre attaque. Et dans ce contexte, les forces yéménites, les dirigeants d'Ansar Allah, ont rejeté en effet toute trêve conditionnelle à la situation humanitaire. Tout cela prouve bel et bien qu'Ansar Allah et les forces armées yéménites, en effet, sont désormais capables non seulement de contrer l'agression et l'offensive de la coalition saoudienne sur différents fronts agisant à Ma'arib et dans d'autres provinces yéménites, mais aussi sont capables de lancer en effet des attaques aux missiles, des attaques de drones sur les installations vitales et les bases militaires de l'Arabie Saoudite, notamment l'aéroport de la base aérienne de Dura Khaled et l'aéroport militaire d'Abha. Donc tout cela montre que la coalition saoudienne se trouve en effet au pied du mur. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Excellente journée à toutes et à tous. Au revoir et à très bientôt.
L'idéologie et la pratique des courants takfiristes. En Irak, le retour de familles des terroristes takfiristes ravive des cauchemars. Quelques 90 familles irakiennes liées au groupe takfiriste Daesh s'étaient réfugiées vers un camp en Syrie pour échapper aux représailles de la population. Les autorités de Bagdad viennent d'organiser leur retour à Mossoul. Ils ont gardé leurs idées extrémistes, disent certains habitants. Le rapatriement dans la nuit noire en Irak de quelques 90 familles lié au groupe takfiriste Daesh, a ravivé des cauchemars chez beaucoup d'habitants de la région de Mossoul, martyrisés pendant 3 ans par cette organisation responsable de terribles exactions. Au terme d'un accord avec la coalition internationale, les autorités de Bagdad ont dû accepter le retour mardi de ces familles, quelques 300 personnes qui s'étaient enfuies vers le camp d'Al-Hol dans le nord-est de la Syrie voisine pour échapper aux représailles de la population irakienne. C'est impossible de coexister avec eux. C'est la première fois que des familles irakiennes liées à l'organisation takfiriste Daesh sont rapatriées depuis ce camp, véritable cité de tente, où sont retenus des proches des takfiristes vers leur pays depuis l'annonce par l'Irak de sa victoire sur le groupe takfiriste fin 2017, après de féroces combats. « Nous sommes totalement contre leur retour. C'est impossible de coexister avec eux, car ils ont gardé leurs idées extrémistes », lance Omar, un militaire de 28 ans qui dit vouloir venger son père, assassiné par l'organisation takfiriste Daesh. Comment peut-on accepter qu'ils reviennent alors que de nombreux habitants pleurent au moins un membre de leur famille, disparu après avoir arrêté par l'organisation takfiriste Daesh et dont le corps n'a jamais été retrouvé, a ajouté Omar. Des familles rapatriées ont été dirigées sous escorte de l'armée irakienne vers Graraya, au sud de la ville de Mossoul, où se trouve le camp d'Al-Jadda, qui accueille déjà, dans deux zones séparées, près de 7500 déplacés et des familles de terroristes takfiristes, selon le ministère des déplacés. Des femmes et des enfants. Le directeur administratif du district de Garaga, Salah Hassan Al-Djoubouri, se veut rassurant. Ces familles ne représentent pas un danger sécuritaire, même si je comprends le rejet populaire, car ces nouveaux arrivants viennent d'Al-Houl. Mais selon lui, la plupart des rapatriés sont des femmes et des enfants, et la quasi-totalité d'entre eux sont originaires de la province d'Al-Anbar, dans l'ouest du pays, qui fut également une place forte de l'organisation takfiriste Daesh. Il n'y a que 4 à 5 familles qui sont originaires de Ninive, la province dont Mossoul est la capitale, précise-t-il. Cela ne rassure nullement Omar. Il dit « Notre avenir est sombre et dangereux, car ces takfiristes vont vivre près de nous. Ce sont des bombes à retardement. » Pour Ali Bayati, membre de la Commission des droits de l'homme en Irak, un organisme lié au gouvernement, les appréhensions des habitants sont dues au manque de transparence des autorités. Personne ne sait si ces gens ont été interrogés et s'ils ont fait l'objet d'enquêtes, a-t-il dit. Selon lui, il aurait fallu, avant de les accepter, s'assurer qu'aucun d'eux n'a fait l'objet d'une inculpation ou n'a commis des crimes. La ministre de l'Immigration, Ivane Faher, estime toutefois qu'il est du devoir de l'État de recevoir les Irakiens rapatriés et les installer dans les camps existants avant de les intégrer dans leur région d'origine. Militant des droits de l'homme et originaire de Mossoul, Omar al-Husseini en doute. Il dit « Le gouvernement doit faire preuve de prudence car ces familles ont passé 5 ans dans le camp d'Al-Houl sous l'influence des takfiristes. L'État est-il capable de les intégrer et surtout de protéger la société, je me le demande », a-t-il ajouté. 3 ans après la proclamation de la victoire de l'Irak sur l'organisation takfiriste Daesh, quelques 1,3 million d'Irakiens sont toujours déplacés dans leur pays, dont 20% vivent dans des camps, selon l'Organisation des Nations Unies. Les autorités irakiennes ont considérablement accéléré depuis le mois d'octobre 2020 la fermeture de ces camps, mais nombre de déplacés n'ont pas pu retourner chez eux selon l'Organisation internationale pour les migrations, étant souvent accusés d'avoir été liés à l'organisation takfiriste Daesh. Huit tués, dont 4 civils, dans une attaque terroriste menée par des takfiristes au Niger. Le conflit entre le gouvernement et divers groupes takfiristes a fait plus de 36 000 morts depuis 2009 dans le nord-est du pays. Au Niger, au moins 4 civils et 4 membres des forces de sécurité ont été tués lors d'une attaque terroriste menée vendredi à Diffa, la grande ville du sud-est du Niger, proche du Nigeria, selon un nouveau bilan annoncé samedi soir par le gouvernement. Le bilan provisoire est le suivant. Côté AMI, 4 éléments des forces de défense et de sécurité, FDS, et 4 civils décédés. 8 éléments des FTS et 5 civils blessés. Côté ennemi, plusieurs terroristes neutralisés, tués, dont 6 corps abandonnés, précise ce bilan du ministère nigérien de la Défense, diffusé samedi soir à la télévision publique. Le ratissage est en cours dans la zone de l'attaque, indique le ministère. Selon des habitants de Diffa, parmi les éléments des FTS tués, figurent 2 gendarmes et 2 policiers, et les civils ont surtout été atteints par des balles perdues lors des violents combats. Un précédent bilan de l'attaque communiqué samedi en fin d'après-midi à l'agence France Presse par les autorités de Diffa faisait état de 3 morts, dont 2 gendarmes et 1 policier et 2 gendarmes blessés. L'armée gouvernementale a détruit 7 véhicules des assaillants équipés de mitrailleuses et a récupéré des armements et du matériel. 3 voitures, des mitrailleuses, des lance-roquettes, un mortier, une importante quantité de munitions, 2 drapeaux des takfiristes, des téléphones portables, des stupéfiants et des seringues ont été saisis selon le bilan des autorités.